Le Spacecast est présenté par l'Atelier. Découvre notre nouvelle offre, les cours de mixologie. Tous les jeudis, vendredis et samedis dès 18h, apprends à shaker comme un pro lors d'un cours d'une heure. Bistrolatelier.com.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
C'est le numéro pour nous rejoindre. Je m'appelle Jean-Francis Blais. Face à moi, j'ai mon fidèle acolyte Louis Gauvin, Violent Lou, évidemment. Yes. Et on est avec vous jusqu'à 22h. Il y aura la scale. Il a bravé la tempête. Il a passé très, très, très près de ne pas pouvoir rentrer dans le stationnement, ce à cause d'une petite butte de neige. Mais Max Lacasse est dans le building, mesdames, messieurs.
Et on me dit qu'il est déjà en train de préparer son lit parce qu'à minuit ce soir, ça va être tough partir.
Ouais, effectivement, apparemment, ça en est une bonne. Les vents, ça fesse d'aplomb, qu'on me dit.
Ouais.
Ah, ben, qu'en fait, que Max me dit. Mais en même temps, ce sont les commentaires d'un homme qui a pris la route dans tempête en Crocs. Fait qu'on va tout en prendre puis en laisser.
C'est Max.
Ouais, c'est ça, c'est Max, exact. Sur le texto, vous vous gênez pas, questions, commentaires, enjeux de circulation, panne de courant s'il y a lieu. Et également, je suis en train de vous lire l'histoire mettant tristement en vedette Canaan. Ça vous fait tous réagir. Fait que c'est intéressant d'avoir vos points de vue et sur pourquoi certaines femmes dans des situations comme ça ont ce type de réaction-là. Très intéressant de vous lire. Ouais. Faites-vous votre propre opinion, comme dit le slogan de la station. Dans un autre ordre d'idée complètement, je suis tellement content qu'on fasse cette entrevue-là. J'ai très, très hâte de jaser avec ce gars-là parce qu'on suit tous les petits rebondissements par rapport à ce qui va se passer le 14 juin prochain. Vous me dites, qu'est-ce qui va se passer le 14 juin prochain? C'est le fameux...
La fête à Donald!
C'est la fête à Donald! Oui. Hein, nous autres, on veut que Donald ait le plus beau party de sa vie. Puis, accessoirement, pour le plus beau party de sa vie, ben il y a un... Man, t'as-tu ça, toi? Qui dit mieux? Quel combat il va y avoir à ta fête? Moi, il n'y a pas de gala du UFC organisé à ma fête.
Ouais, on me dit qu'à ma fête, ça va être tranquille.
Ça va être tranquille, ouais, c'est ça. Tu sais, je peux peut-être me battre avec quelqu'un si je crie des obscénités à quelque part, mais il n'y aura pas de gens qui vont se battre pour moi.
UFC Val-Bélair, ouais. Non.
Ça n'aura pas lieu, puis si je veux qu'il y ait des combats à ma fête, je serai impliqué parce que les gens ne vont pas se battre pour moi. Là, tu comprends?
On se battra, nous autres.
Non, c'est ça, on se battra pour ma fête, hein, bingo. Crime, il fera partie. C'est un gars de Montréal qui fera partie de la fameuse carte de la Maison-Blanche. J'ai tellement de questions pour ce gars-là. On s'en va rejoindre Eman Zahabi qui est au bout du fil. Salut, Eman.
Salut, ça va bien, les gars?
Ça va très bien toi-même?
Oui, tout va bien. Je suis vraiment excité pour cette... moment historique pour la fête de Donald.
Oui, oui. Tu vas-tu avoir un cadeau pour Donald?
Oh, j'en ai un KO sur Sean O'Malley pour lui.
Ah, j'aime ça.
Les Canadiens vont battre les Américains cette soirée-là.
Comment on obtient une place sur un gala du genre? Comment c'est venu à ton oreille la première fois?
Ils m'ont appelé le mercredi passé, puis ils m'ont demandé, pas Dana White, mais Hunter Campbell, le gars qui remplace Dana. Il nous a appelé puis nous a demandé qu'est-ce qu'on pense d'un combat contre Sean O'Malley à la Maison-Blanche, comment tu penses que ça va se passer et tout. Donc, j'ai dit oui, et je pense avoir des feux d'artifice dans ce combat-là. Il va y avoir plein d'actions. Tu sais, nous deux, on est des strikers. Je suis très bon dans la boxe anglaise et tu sais, j'aime ça me battre sur les pieds. Tu sais. Donc, j'ai dit que ça va avoir beaucoup d'actions et je pense que j'aimerais l'avoir ce combat-là. Donc, tu peux me réserver une place, j'aimerais ça. Mais ils m'ont pas donné une confirmation. Okay. Tu sais, Dana et Hunter, ils ont dit qu'ils gardent deux options pour les combats. Donc, moi, j'avais dit oui pour me battre contre Sean O'Malley. Et il y avait aussi Corey Sanhagen qui avait dit oui de se battre contre Sean O'Malley aussi. Et moi, j'ai su la confirmation samedi soir durant la carte de la fin de semaine. Donc, j'étais avec ma famille, mes enfants, ma femme, puis on était tous surpris en même temps. Donc, j'ai aimé cette façon-là de faire aussi parce qu'ils ont tous gardé ça secret. Ils n'ont pas envoyé le contrat. Ils ne voulaient pas qu'il y ait un leak aux médias, tu sais.
Mm-hmm. Ah ouais. Est-ce que tu as plus d'informations sur comment ça va se passer le 14 juin? Est-ce que tu as des consignes particulières lors du gala qui diffèrent des autres galas auxquels tu as pu prendre part? Parce que Maison-Blanche, tu sais.
Une chose que l'UFC, ils sont tellement bons, puis ils ont tellement d'expérience, puis ils planifient tout, mais pour cette carte-là, on n'a aucune idée. Comme j'ai pas encore reçu mon contrat encore, ils n'ont pas encore dit si on va avoir accès aux billets pour nos amis puis nos familles. Et on n'est pas sûr comment tout va se débarquer pour l'événement. Donc, c'est à voir.
OK. Hey, c'est sûr que nous autres, on va être derrière toi. Puis, ben, en tout cas, pas sur place, à moins qu'on fasse la passe à la loterie. Là, mais en pensée, c'est sûr qu'on va être derrière toi. Est-ce que tu es déjà en camp d'entraînement puis en préparation pour ce combat-là ou tu commences ça imminemment?
Oui, non, j'ai commencé tout de suite. Écoute, mon frère, il est vraiment comme fanatique quand ça vient, qu'on signe un contrat ou quand on dit oui à un combat, on commence le plus tôt possible, tu sais, pour avoir le meilleur avantage quand on arrive au combat. Tu sais, on va ajouter des cartes à mon jeu, puis on veut, avoir des pièges qu'on n'a jamais montrés dans l'octogone, puis on veut le surprendre. Donc, ça prend du temps d'ajouter de nouvelles cartes, donc on va en prendre davantage.
OK. Écoute, évidemment, je te demanderai pas de spoiler tes cartes, là, mais toi, tu t'attends à quoi de Sean O'Malley?
Son style, c'est vraiment comme Counter-Striker. Il veut que tu le chasses, il veut que tu viennes, tu rentres dedans. Puis il va y avoir des moments où je vais le faire parce que, tu sais, moi aussi, je vais le manger. Écoute, je ne veux pas venir à la Maison-Blanche puis donner une performance so-so ou, tu sais, avec pas de courage. Non, je veux le prendre le combat. Mm-hmm. Je veux faire quelque chose qui est éclatant. Mm-hmm. Donc, je vais aller le chercher, mais je veux pas le faire trop souvent pour lui donner trop de chance non plus. Donc, il va y avoir des moments où je vais lui laisser venir le prendre de moi. Parce que lui, je pense, dans ma tête, quand je regarde le film, il n'est pas bon à venir le prendre. Il est juste bon en Counter-Strike. Donc, il va y avoir des temps où je peux me prendre un petit break pour trouver une nouvelle manière de rentrer et de mettre la pression sur lui.
Ton frère a été l'entraîneur de Georges St-Pierre. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est son entraîneur. Puis Georges va être dans mon coin pour ce combat-là aussi.
Wow! Ça fait des années que tu roules ta bosse dans l'UFC aussi. Et je pense que tu étais dans l'UFC quand Georges était actif, hein?
Oui, le gros moment pour moi, c'était ma deuxième combat dans l'UFC. J'étais le premier combat sur la carte de Madison Square Garden quand Georges est revenu après sa retraite pour se battre contre Bisping. Lui, était le dernier combat sur la carte, puis moi, j'étais le premier combat.
OK.
Puis je pensais comme c'est comme... le passing of the torch moment pour moi, tu sais, comme je pensais, mais j'avais perdu. J'ai perdu par KO, puis lui a gagné par rear naked choke, puis comme c'était comme la plus grosse défaite de ma carrière, puis tu sais, c'était pas le moment. C'est pour ça que j'ai hâte pour la carte, pour la Maison Blanche, mais la carte de Maison Blanche va être juste bonne. C'est juste un bon moment si je réussis. T'sais, ça peut aussi être comme un cauchemar pour moi si tout va pas bien.
Oui, je comprends.
Après cette défaite-là en 2017, ouais. Ça t'a quand même pris un certain temps avant de revenir dans l'octogone. Puis j'ai remarqué que tu étais plutôt du genre à faire un combat par année. Même en 2020, il n'y a pas eu de combat. Pourquoi dans ces années-là, ton rythme était pas au top? Puis là, dans les dernières années, tu as décidé d'y aller all-in ou du moins tu y vas certainement all-in. T'es en route vers le titre.
Ouais, ben pour être honnête, comme avant ma première défaite, je pensais que j'étais comme invincible, tu sais. Puis quand j'ai passé le KO, quand j'ai perdu en 2017, j'avais vraiment un mauvais commotion cérébrale.
OK.
Puis ça m'a pris 18 mois avant que je peux comme retourner à 100% physiquement. Et mentalement, quand j'ai fait le combat après celle-là, j'étais pas à 100% mentalement, j'étais à 100% physiquement. Mais j'avais beaucoup d'anxiety. Et il fallait que je trouve quelque chose pour enlever la peur. Et j'ai tombé à commencer à lire des livres et tout ça pour comme trouver une réponse. Puis quand je l'ai trouvé, là, j'ai commencé à vraiment pousser fort pour des combats. Puis j'ai commencé à gagner à chacun, un après l'autre. J'ai commencé ma série de sept combats.
Permets-moi l'indiscrétion, là, mais ça a été quoi la réponse pour vaincre l'anxiété? Parce que j'ai l'impression que tu peux aider bien les auditeurs avec ça. Là. Même s'ils ne se battent pas.
Oui, je vais le dire en anglais parce que c'est facile pour moi, mais j'ai trouvé un mantra. Je me dis « I love the fear will set me free ». Parce que là, j'ai pensé dans ma tête que, écoute, moi j'ai deux petites filles à la maison. Et depuis que je suis jeune, je voulais être un champion dans les combats. Donc, pourquoi je gaspille ma chance en avoir peur? faut que je me bats avec la courage. Tu sais, si je veux être respecté dans ma carrière, je veux être respecté par les partisans et tout le monde et par les autres combattants, faut que je me bats avec le courage. Qu'est-ce que je fais avec ayant peur, tu sais?
Ouais.
Donc comme ça, comme changer dans ma tête, puis là je me bats avec courage et je me bats complètement avec mon corps. Comme si tu as regardé le combat avec Oziado à Montréal, tu sais, j'ai reçu deux soccer kicks à la face, puis tu sais.
Puis t'as remonté.
Exact, mais j'ai tout retourné ça, puis j'ai fini par le dominer. Et même avec le combat avec Marlon Chito Vera. Il m'a sonné, j'ai tombé. Quand je m'ai levé, il m'a donné un kick dans le bras, il a cassé mon avant-bras. Puis j'ai quand même gagné le combat, j'ai quand même le troisième round. Puis, tu sais, j'ai battu avec mon corps au complet, avec plein de courage.
Hey, mais tu sais, sur le bout de ta. Sur le bout de ta commotion cérébrale, l'as dit, t'as des enfants, je pense, deux jumelles, ça se peut-tu?
Oui, c'est deux jumelles. Oh, ouais.
T'as deux jumelles, t'as une conjointe. T'es un gars avec des formations, je pense, en commerce. T'es un gars avec une tête, ses épaules, sans mauvais jeu de mots en lien avec la commotion cérébrale. Mais y a-tu, dans ton entourage, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te dissuader de poursuivre ta carrière dans l'UFC?
Oui, bien sûr. Tout le monde, spécialement le média, ils ont dit que j'étais plus bon, j'avais aucune chance de faire. T'sais. Puis après, ils parlaient beaucoup de mon âge. Ah, là, il est vieux. Je pense que mon histoire, là, c'est pour les jeunes qui pensent qu'ils sont en retard. Ils pensent, et le monde leur dit, écoute, tu commences à être vieux, il faut lâcher ça, il faut trouver une autre façon de le faire. Va retourner à l'école, puis fais quelque chose d'autre, lâche tes rêves. Moi, j'ai jamais lâché mes rêves. J'ai baissé ma tête, puis j'ai travaillé très fort, et j'ai pas parlé comme un Conor McGregor ou quoi que ce soit pour être fameux. Mm-hmm. Là, je sais que le média, il me donne un peu d'attention, mais je pense que je l'ai eu avec une crédibilité à cause de mes combats, à cause de ma série. Il y a juste moi puis Georges Saint-Pierre au Canada qui en a gagné 7 de suite dans l'UFC. Il n'y a pas d'autres Canadiens qui l'ont fait. Donc, je mérite, je pense, ce moment-là parce que je l'ai fait avec d'une manière que personne ne peut me douter.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a une façon de conserver cette confiance-là? Parce que, tu sais, nous autres, on fait beaucoup d'entrevues justement avec des combattants. On adore ça, parler avec des... Parce que vous êtes des bébites uniques, là, tu sais. Les combattants, vous êtes tous différents. Vous avez tout quelque chose qui vous relie, c'est-à-dire vous êtes tous uniques. Puis ça, là, ça revient tout le temps, là. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as le doute de perdre, tu vas sûrement passer un mauvais moment. Fait que c'est quoi la façon? Parce que là, tu as réussi à revirer le bateau de bord.
Ouais.
Mais comment on continue à garder la voie, tu sais?
Oui, pour moi, écoute, c'est simple. Si je suis capable de donner une très belle performance, je m'en fous du résultat, même si je gagne ou si je perds. Écoute, le combat avec Aldo, s'il y aurait eu la décision, j'aurais pas honte de perdre contre lui après tout ce qui s'est passé durant le combat. Mm-hmm. Donc là, mon but, c'est de m'entraîner le plus fort possible, plus intelligemment possible, de me préparer mon corps, ma stratégie, mes tactiques, pour donner une très belle, une excellente performance, la meilleure performance de ma vie. Et avec ça, je peux dormir bien à la fin de la journée. Et tu sais, le thème pour mon dernier combat, j'ai dit que je mets tout, tu sais, en anglais, je dirais « I put all my faith in God, but I work like it's all up to me ». Tu sais, je travaille très fort comme si c'est juste sur moi. Mais à la fin de la journée, gagner puis perdre, c'est sur Dieu. Dieu va décider le futur. Puis c'est juste à moi de donner le plus que je peux. Et je vais être capable de dormir bien.
Mmh. T'en as parlé brièvement tantôt à ton âge. T'as quand même 38 ans, ce qui, dans la UFC, t'es plus vers la fin que vers le début, mais il te reste encore beaucoup d'années. Mais est-ce que tu vois des changements sur ton corps comparé à quand t'étais plus jeune? Est-ce que tes camps d'entraînement sont plus difficiles ou tu te sens peut-être même plus en forme que quand t'étais jeune?
Non, je pense que je suis plus en forme. J'ai encore une force, tu sais, une meilleure force, je pense, physique. Et aussi, écoute, moi, je saute pas très haut. Je n'étais jamais athlétique quand j'étais jeune non plus. Je cours pas trop vite. J'ai pas la meilleure VO2 max. J'étais pas comme quelqu'un qui dépend sur son physique, tu sais, comme ma prowess athlétique non plus. J'ai comme vraiment mon jeu, c'est basé sur mon intelligence, l'intelligence de mon frère, puis le game plan, puis les stratégies, les tactiques. Comment jouer le jeu? Mais I like to outplay them. J'aime pas faire un gros tête-à-tête, mais je l'ai dans... C'est une carte que je peux jouer. Comme si tu peux voir, quand je m'ai battu contre Vera, même avec mon bras cassé, j'ai gagné le troisième round parce que quand je l'ai besoin, je peux le faire, mais j'aimerais ça me gagner sans me faire trop mal.
Quand c'est un bon dommage. Idéalement.
Ouais, tu sais, mais je l'ai, tu sais, j'ai pas peur de personne dans l'octogone, tu sais, même quand il a donné le coup de tête. J'étais là, j'ai commencé à rire un peu dans ma tête, comme tu penses que j'ai peur de toi, je m'ai préparé 2 mois pour me rendre dans cette cage-là pour te battre.
Tu nous l'as dit, t'es un gars qui est très calme, tu parles pas beaucoup, t'es quand même assez réservé, contrairement à Sean O'Malley qui, l'autre bord, lui, est un gars qui trash talk, qui envoie promener tout le monde.
Il a des cheveux roses, man, tu sais, je veux dire.
Il est donc bien cute, ce gars-là.
ouais, tu vas peut-être pouvoir te le pogner après le combat, si tu veux.
Mais comment tu te sens à te battre contre un gars de même? Comment t'approches ça? Est-ce que tu vas, dans les conférences de presse, embarquer dans son jeu ou tu vas...
Non, écoute, moi, je suis comme Georges Saint-Pierre. Moi, je prends mes affaires de Georges. Moi, je vais venir avec des belles suits. Même pour ce combat-là, je vais avoir... Moi, j'ai un sponsor qui s'appelle Suitably. Ils sont des gars de Montréal. Ils vont donner un suit à moi, à Georges, à Firas et à Neil pour chaque événement qu'on va venir en conférence de presse. T'sais, on va être bien habillé. C'est la Maison Blanche. Toute mon équipe, on va être là. On va avoir une apparence, comme les joueurs d'hockey.
Classy.
Ouais, de la classe.
Classy. On veut venir. On représente le Canada. Écoute, c'est comme un Super Bowl. C'est comme un événement pour les Olympiques là, dans l'UFC ce moment-là. Ils vont jamais revenir à la Maison Blanche. On va faire ça classy. Puis on va bien représenter le pays au complet. Mmh.
Sean O'Malley, là, psychologiquement, est-ce qu'il y a... Ouais. Est-ce que tu bâtis une haine de ce gars-là ou bien juste le fait que lui va essayer de te faire mal, c'est en masse pour te défendre puis essayer de le battre?
Écoute, moi, j'ai pas besoin de haïr personne pour me battre. Moi, je suis comme un hitman. Là, j'ai une mission puis je vais aller la compléter. Mais pour ce combat-là, je pense comme je suis comme Clubber Lang dans Rocky. T'sais, lui, il a tout, il y a les Ferrari, il a tout l'argent, tout le monde l'adore, mais moi, j'ai faim. Moi, j'ai rien. Je viens de Chaumet-des-Laval. Écoute, mes parents, ils ont immigré ici, puis on était pauvres quand on était jeunes. Ils ont immigré ici pour nous donner une chance pour une meilleure vie. Là, je suis rendu à la Maison-Blanche à cause que je me bats dans une cage. Mm-hmm. Je veux pas perdre cette opportunité pour perdre contre un gars qui... Moi, je pense qu'il est juste flash. Et moi, je viens avec une essence pure de l'entraînement, comme un martial artist, comme Georges Saint-Pierre disait toujours dans le temps. Mm-hmm. Je viens, j'ai faim, je veux tout ce qu'il y a. Je veux l'argent, je veux avoir les partisans derrière moi. Je veux tout ce qu'il y a.
À quel point t'as l'intention d'amener ce gars-là au sol? Parce que tu fais du UFC depuis ton jeune âge. T'as commencé, je pense, du Jiu-Jitsu depuis que t'es en jeune âge. Est-ce que c'est une de tes armes secrètes, justement, vu que c'est un striker, lui, j'imagine qu'il n'a pas souvent l'intention d'aller au sol, là, de base?
Ouais, je pense pas qu'il va shooter sur moi. Écoute, ma ceinture noire est beaucoup plus forte que celui-là de lui. Et oui, c'est toujours une option. Mais moi, je pense que le monde, cette soirée-là, il veut voir un grand KO. Donc, mais c'est toujours une option, puis je veux le surprendre. Écoute, il ne veut pas regarder toutes les entrevues en français. Ben oui, c'est dans les cartes.
Ouais, OK. Ça fait partie des stratégies. Est-ce que tu emmènes ta famille dans tes combats?
Écoute, il y avait... Moi, ma femme, je la connais depuis que j'ai jeune. Depuis que j'ai 15 ans, ma femme, elle venait à tous mes combats. Jusqu'à temps que COVID est arrivé, puis elle ne pouvait pas venir quand je m'ai battu durant COVID.
OK.
Puis après que j'en ai perdu 2 de suite, durant COVID, c'est quand j'ai gagné ma première combat de la série. Et je lui ai dit, OK, écoute, tu ne peux pas venir à la prochaine. Donc, j'ai gagné une autre. Là, je dis, look, j'en ai gagné 2 de suite, tu ne peux plus venir. Pour 5 ans, pas venu au combat, j'en ai gagné 5 de suite. Puis là, quand ils sont venus à Montréal, j'ai dit, OK, tu peux venir parce que c'est à Montréal. J'ai acheté des billets pour tes front row seats là, pour qu'elle soit là, parce que je savais pas si ils vont revenir à Montréal dans le futur, mais une chance, on a gagné quand même.
Mais est-ce que tu es quelqu'un qui est bien superstitieux dans la vie? Évidemment, un petit peu à cause de ça. Mais...
Avant, oui. Là, je travaille avec un coach pour l'aspect mental, puis là, je suis correct. Je crois plus dans ça.
OK. Hey, mais ça pique ma curiosité. Ton coach, pour travailler l'aspect mental, une séance avec ton coach pour travailler l'aspect mental, vous faites quoi ensemble?
Oui, tu sais, comme il me demande toujours des questions qui sont pas faciles à répondre. T'sais. On parle, qu'est-ce qui va passer? Si quelque chose qui se passe dans le combat, tu fais drop, qu'est-ce que tu fais? tu sais, puis il me fait regarder ce que, tu sais, les choses qui sont mauvaises, puis on trouve une façon de résoudre le problème avant qu'on arrive. Tu sais, c'est beaucoup comme visualizing puis des affaires comme ça. Mais aussi, il trouve la manière d'une meilleure perspective. C'est lui qui m'a montré que si je donne la meilleure performance que je peux, puis je me suis bien préparé, on s'en fout du résultat. Le monde va te respecter. Mais si tu perds avec puis le monde voit que tu avais peur, ou le monde voit que tu n'avais pas tout donné, là, le monde, ils vont pas t'aimer. Mais il y a plein de personnes qui arrivent à des gros moments, puis même quand ils perdent, ils sont encouragés par leurs partisans. Donc, tu sais, comme ils m'aident avec cette perspective-là, puis ils m'enlèvent le stress que je sais que je vais tout faire, et ça me laisse me battre plus comme sans émotion.
T'as-tu l'impression que le 15 juin, ta vie va avoir complètement changé? Parce que, tu sais, c'est une plateforme incroyable d'un point de vue promotion. Là, tu sais, tu vas être à Maison-Blanche pour la fête à Donald. Puis en plus, tu as comme le sceau d'approbation de Georges Saint-Pierre, qui est considéré par plusieurs comme le plus grand. Fait que, tu sais, en partant, si Georges, il ne se tiendrait pas à côté d'un tout nu. Là, fait que ça va comme te crédibiliser tout seul sans même que tu aies donné un coup de poing.
Oui, je pense, je souhaite que c'est ça, mais écoute, faut que je donne quelque chose qui a cette valeur-là. Sinon, le 15 juin, le monde va m'oublier. Donc, c'est sur moi, c'est sur mes épaules de le faire. Puis, je suis pas quelqu'un qui pense qu'on doit recevoir des choses gratuitement non plus. Puis, je veux pas une crédibilité avec le monde si je l'ai pas réussi. Si je n'ai pas réussi de me démontrer que je suis meilleur que Sean O'Malley, puis, ou si que je suis pas deserving of the moment, tu sais.
Mm-hmm. Ouais, je comprends. Hey, tes enfants ont quel âge, hein? Curiosité comme ça.
Ils ont 7 ans, ils vont avoir 8 ans en juillet.
Toi, tu as commencé le jiu-jitsu à 13. Est-ce que ça fait partie de tes plans d'emmener les arts martiaux dans la vie de tes filles éventuellement?
Oui, bien sûr. Écoute, moi, je pense qu'il y a un minimum niveau de jiu-jitsu puis de boxe anglaise qu'ils doivent savoir. Parce que, écoute, veux pas, le monde il est violent. Puis même, tu sais, les petites filles à l'école, ils se tabassent, puis ils se poussent. Puis il y a des petits garçons qui, tu sais, ils essaient de les envoyer vers le sol. Donc, tout le monde doit avoir un peu d'orientation mixte pour être capable de se tenir bien dans la société.
Oui, toi qui as un background, là, justement, nos auditeurs qui ont peut-être des enfants en jeune âge, tu leur conseillerais quelle discipline pour, mettons, des aptitudes d'autodéfense de base. Là, pas au point de se rendre à la Maison-Blanche dans l'UFC, là, mais juste comme juste être capable de se défendre, ce serait quoi que tu les pousserais vers?
Oui, mon opinion à moi, écoute, la meilleure chose, c'est de trouver un instructeur qui le fait pas juste pour faire l'argent. Parce qu'il y a des instructeurs, ils s'en foutent de leurs clients, puis ils donnent des ceintures à chaque 2 mois parce que tu viens, tu pratiques, mais pas parce que tu es bon, puis pas parce que tu apprends. La meilleure chose, c'est de trouver un instructeur qui fait l'effort, puis que tous les élèves y apprennent pour de vrai. Et si j'aurais besoin de choisir un sport, c'est la lutte ou jiu-jitsu brésilien, parce que, dans mon opinion, tu veux pas que tes enfants vont à la cour d'école, puis frappent quelqu'un en face avec des coups de poing. Meilleur de les amener au sol, puis de les contrôler sans leur frapper, et attendre pour un adulte de venir arrêter la situation. Et la lutte et le jiu-jitsu aussi, que si ton enfant est pris par surprise, puis il est en dessous d'un autre enfant, il est capable de se relever et retourner la situation puis contrôler l'autre enfant. Parce que tu ne veux pas vraiment envoyer un enfant à la maison avec un œil noir ou un nez brisé, quelque chose comme ça. Le contrôle, c'est la chose la plus importante avec les enfants.
Je comprends que là, ton focus est vraiment sur le 14 juin, puis tu sais, évidemment, mais est-ce que tu es un gars très cartésien qui met... Est-ce que tu as un plan de carrière pour la suite des choses? Puis je veux pas revenir sur ton âge, mais en même temps, tu sais... Est-ce que dans ta tête, tu es un genre de gars qui vraiment là, visualise les prochaines étapes, puis tu sais exactement où tu t'en vas, ou tu laisses la vie puis le UFC t'offrir des opportunités?
Non, déjà, je planifie. Là, je travaille pour Sportsnet quand j'ai la chance. Je travaille comme analyste de sport pour eux, pour le UFC.
OK, cool.
Et ils m'ont dit que quand je prends ma retraite, j'ai toujours une place avec eux. Donc, ça, c'est ce que je planifie pour ma retraite. Et aussi, je vais aider mon frère avec les futurs combattants de l'UFC qu'on a ici à Tristar et les amateurs aussi. Je vais commencer à monter la prochaine génération avec mon frère, avec Georges et tous les gars au gym.
Ah, c'est malade. Ben écoute, ma prochaine question s'adresse à Eman Zahabi, qui est descripteur de UFC et non combattant, OK?
Oui, parfait.
Est-ce que tu penses que l'UFC paye assez ses combattants? Puis tu as sûrement vu là, la nouvelle initiative de Jake Paul avec son gala sur Netflix et tout ça. Est-ce que tu penses que la UFC, en payant pas suffisamment ses combattants, joue un jeu dangereux puis que potentiellement Dana White là, a trouvé son homme?
Non, écoute, je pense pas qu'ils jouent un jeu dangereux parce que personne ne peut compétitionner avec eux.
Okay.
Et c'est ça qui donne leur donne l'avantage de... Oui, ils ne payent pas des sommes très extravagantes comme au LNH ou NBA ou MLB ou quelque chose comme ça. Mais dans notre environnement d'arts martiaux mix, c'est le meilleur choix parce que tu peux avoir le combat le plus constant. Même si le pay est bas, il n'y a personne qui a 42 événements par année.
Ouais.
Ce sont les seuls.
Mm-hmm.
Donc, même si Jake Paul il vient avec son MVP, mais il fait un ou deux galas par année, c'est pas assez pour les combattants. Tu sais, UFC, ils ont 42 événements par année. Donc, si tu veux te battre, tu peux monter en parce que comment ça marche, c'est avec des contrats. Puis chaque fois que tu finis un contrat, tu montes au prochain tiers de paye.
Okay.
Et tu continues à monter. Même si tu perds, tu montes dans le paye.
OK, c'est comme un principe d'ancienneté quasiment.
Oui, c'est vraiment sur l'ancienneté ou popularité.
Okay.
Même si tu n'as pas beaucoup de combats, c'est extrêmement populaire, comme un Raul Rosas Jr. qui s'est battu la semaine passée, sûrement. Lui, il a un meilleur pay que quelqu'un qui a le même nombre de combats, mais moins populaire.
Okay.
Et aussi, ça dépend le ranking. Là, quand tu montes dans les rankings, tu es payé plus. Puis moi, je suis vraiment proche de me battre pour le titre. Puis supposément, quand tu te bats pour le titre, il y a un nouveau contrat que je... Tu sais que ça commence à payer vraiment bien, donc j'ai hâte, comme je suis presque là.
Ben on te le souhaite, mon cher. Avant de te laisser, est-ce que tu as des visées sur d'autres types? Parce que tu sais, souvent, là, quand on parle avec des Charles Jourdain de ce monde et tout ça, là, ce qu'ils nous disent, c'est oui, ils aiment le UFC, mais ils aiment aussi tout simplement le combat. Puis, il me semble que Charles nous avait dit qu'il voulait essayer absolument le bare knuckle au moins une fois dans sa vie. Est-ce que toi, tu as d'autres types de combats que tu aimerais essayer avant la retraite?
Non.
Non, c'est l'UFC et rien d'autre.
Oui, c'est l'UFC parce que c'est ça que je connais. Puis écoute, comme les boxeurs nous regardent comme des sauvages, nous, quand on regarde les gars de bare knuckle, on pense qu'eux, ils sont trop sauvages. C'est comme une chaîne d'affaires, là. Une chaîne de sport. Non, c'est juste une blague. Tu sais, écoute, je les respecte aussi parce que c'est un sport très dangereux, sans gants. Écoute... C'est une chose que moi, je pourrais pas faire.
Ouais, je comprends.
Cette question-là, c'est une question qu'on pose pas mal à tous les combattants qui viennent, que ce soit des boxeurs ou des gens de la UFC. Ouais.
Et même des femmes. On le demande même aux femmes. C'est vrai, là.
Oui, okay. Parce qu'il y a une... En fait, il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent souvent que l'abstinence sexuelle avant un combat, ça augmente la testostérone. Toi, dans ton cas, à toi, est-ce que tu crois ça ou tu t'en fous complètement?
Non, écoute, je crois pas en ça du tout. Avant que j'ai perdu la première fois, toujours la soirée avant, je faisais ce que j'avais besoin à faire.
Ouais.
Mais là, avec cette série, parce que, tu sais, à cause de COVID, ma femme venait pas, j'ai arrêté, mais je pense pas que, tu sais, il y a comme une relation.
OK. Depuis la série de 7 victoires, là, t'as pu t'amuser un peu. En lisant les lignes, on comprend que t'as pu t'amuser un peu, ta conjointe aussi, puis ça n'a pas fait de différence à la victoire.
Oui, oh, exact.
OK. Fait que le 13 juin va être une belle soirée, visiblement.
Ouais,
hey, Eman, un gros merci, Krim, de nous avoir parlé ce soir. On était très excités de pouvoir te parler. Puis évidemment, on va être tout autant excités le 14 juin prochain quand on va être derrière toi en pensée parce qu'on est trop pauvre pour être là. Mais ça va être malade. Puis on te souhaite, je sais pas s'il faut dire merde ou bonne chance, mais garde les deux, mon cher. Puis oui, c'est tout le monde qui va être derrière toi.
Merci beaucoup. Bonne soirée, les gars.
Hey, bonne soirée.
Bye-bye.
C'était Eman Zahabi qui, le 14 juin prochain, à la Maison-Blanche, va affronter cette étrange créature qui est Sean O'Malley. Là.
Méchant wacko.
Ouais. Complètement fucked up. Là. C'est, pour vrai, c'est un mix entre genre Krusty le clown et Krusty le clown puis Trevor dans GTA V.
J'aurais pas dit mieux.
Trouves-tu?
J'aurais pas dit mieux. Puis j'ai Rusty le clown encore plus sur le crack.
Ouais, j'ai de la misère. Pour vrai, j'ai vraiment de la misère à le à saisir son personnage. Là, parce que souvent, dans l'UFC, là, sans être en mode lutte, les gars ont des personnages, tu sais.
Ouais. Un peu, tu sais. Je pense que son personnage, c'est la débilité.
C'est vrai, c'est comme...
Je pense qu'on est vraiment là-dedans, là.
Dur à gager, ce gars-là.
Le personnage, c'est un peu « je fume beaucoup de weed en m'entraînant ».
Ouais, c'est tout ouvert, ça.
Normalement, ouais, oui. Ben là, il a déjà fait des vidéos de lui qui se fumait des gros battes en.
Des gros blunts.
Ah, oui. Ah, ouais, okay. Il y en a rien à foutre.
Ah, les gars ont le droit, je savais même pas.
Je pense que oui. Je te garantis que le pote, ça a jamais gonflé les performances que ce soit dans quelconque sport.
Non, parle-en aux Diaz. Non. Je pensais que le pote dans l'UFC, c'était vraiment comme, bah, c'est les Diaz, hein. Puis qu'il y avait les autres.
Sean O'Malley est un peu comme. Le repreneur de la lignée des Diaz.
Des flambeaux des Diaz. Okay.
Pour le pote, ouais.
Ah, OK. Hey, cool gars. Vraiment, on va se le dire, là. Heyman, c'est un cool gars.
Je suis content qu'il ait accepté, puis il a pas été compliqué non plus. Souvent très, très accessible.
Hey, on va le dire, là, c'est souvent le cas avec les combattants. Pour vrai, là. Hey, fois, mais on se fend le cul pendant des entrevues, là, avec des gens qui ont beaucoup moins les projecteurs sur eux autres. Puis c'est compliqué. Puis t'as l'impression, man, je suis en train de booker, genre, d'essayer de booker, genre, la dépouille de Brian Maroney, là, man. C'est donc bien compliqué. Tandis qu'avec des gars comme Heyman Zahabi ou name it, là, Charles Jourdain, ça se fait de même.
Ah ouais, mais les gars sont smart, les gars sont vrais. C'est tout du bon monde, tu le vois, juste en le jasant à chaque fois. Là.
Le gars a une formation en commerce puis en gestion, genre. Là. C'est pas un débile, là.
Non. Ça s'entend.
Ouais, ouais. C'est le cas de plusieurs. Christian Billy, même affaire. Mm-hmm. Christian Billy, ça m'avait shaké, entre guillemets, à quel point le gars, il était...
Intelligent,
ouais.
Ah oui? On pense des fois que c'est des brutes, puis juste des colons, tout ce qu'ils savent faire dans la vie, c'est cogner, là, mais pas du tout.
Ouais, non,
pas
non,
du tout. Surtout rendu à ces niveaux-là, faut que tu sois un minimum intelligent.
Pour vrai, sur le lot, parce qu'on commence à en avoir fait une couple des entrevues avec des combattants, là, puis...
Je pense que dans la UFC, en tout cas, le seul keb qu'on n'a pas eu, c'est Marc-André Barrio. Je l'ai déjà eu en entrevue, là, mais dans le space.
Ah, puis nous autres, moi, je l'ai eu dans le temps, Barrio, avec Brandon. Bon, fait que ça
il est
date.
Déjà venu dans le space.
Il est déjà
check.
Venu dans le space, ouais, voilà. C'est ça. Puis même lui, ça en est un autre qui était super super allumé, là, super correct. Pour vrai, j'essaie de penser, là, genre, on a-tu parlé à un combattant, mettons, même hors UFC, qui est comme un domé, là?
Ça m'est arrivé une fois.
Ouais, c'est ça.
Ça m'est arrivé une fois.
J'ai en tête aussi d'un moment.
J'étais pas là, ça m'est arrivé.
Ouais, c'est ça.
Ça m'est arrivé.
All right.
On n'aimera pas
parce que vu que t'es un dommé,
t'es un bon combattant.
T'es un bon combattant, mais il est capable de nous péter la gueule. Parler pour se comprendre, on va le dire de même. Hey, petite pause, on revient.
Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Le Space Cast est présenté par l'Atelier. Découvre notre nouvelle offre, les cours de mixologie. Tous les jeudis, vendredis et samedis dès 18h, apprends chic et comme un pro lors d'un cours d'une heure. Bistrolatelier.com.